Alors, ça fait en tout cas au moins un mois ou peut-être même deux mois depuis que Marc m'a sollicité, pasteur Marc m'a sollicité de pouvoir partager la parole avec vous en ce dimanche 23 novembre. Et en ce moment-là déjà, il m'avait donné une option, soit de prêcher ce que Dieu mettait sur mon cœur à partir de n'importe quel texte, mais que lui, sa prière, sa préférence aurait été que je prêche quelque chose sur Marc. Et vous comprenez, il avait déjà commencé une série en Marc, et je me suis dit, oui, je vais prêcher sur Marc. Maintenant, la question, c'est, quel texte? Je me dis, bon, tel qu'il avance, peut-être qu'il sera au chapitre 4, au chapitre 5. Alors, moi, j'ai choisi d'aller un peu plus loin, au chapitre 9. Mais en titre de rappel, comme les commentateurs le disent, Marc est l'évangile de Marc, donc le livre de Marc, est le plus ancien, le plus court, donc le plus bref, et donc le plus direct des évangiles ou des livres qui portent le nom des évangiles, des quatre évangiles. En d'autres termes, si vous voulez avoir l'évangile en résumé, lisez Marc. Il ne s'arrête qu'à l'essentiel et il va au point. D'ailleurs, il est le seul évangile qui s'identifie comme évangile. C'est le seul livre qui dit l'évangile. Pour lui, son livre est là pour nous donner le commencement de l'évangile ou de la bonne nouvelle, parce que le mot évangile veut dire bonne nouvelle, concernant Jésus-Christ qui est fils de Dieu. C'est ça le début de son livre. Voici le commencement de la bonne nouvelle concernant Jésus-Christ qui est fils de Dieu. En d'autres termes, ce qu'il présente dans son évangile, dans son entendement, n'est que le commencement de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, dans la bonne nouvelle, c'est que cet évangile, cette bonne nouvelle continue jusqu'à nos jours. Et comme je l'ai dit, il est tout droit, il va directement au bout. Tandis que Matthieu commence par une généalogie de la famille de Jésus et que Luc présente son œuvre comme un exposé et suivi et ordonné, donc qu'il nous présente après des recherches, Marc va droit au but. Il nous présente l'évangile. Et son but est que nous puissions nous aussi bénéficier de cet évangile en l'acceptant. Et dans la structure, il est très simple. L'évangile s'ouvre par la prédication de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus, la tentation de Jésus. Ça, c'est 13 versets seulement. Et puis directement, Jésus commence son ministère au 14e verset. Et là, Jésus, quand il commence son ministère, il est tout au nord du royaume. Il est en Galilée. La Galilée, c'est l'arrière-pays. Lui qui vient annoncer la bonne nouvelle choisit la province la plus méprisée, la province la plus pauvre, la province la plus reculée. C'est là où il fait son ministère. Et il y passe la grande partie de son ministère. Et vous savez, quand on arrive, parce que ça va jusqu'au, ça va à partir du 14e verset jusqu'au 7e chapitre. Et quand il vient au 8e chapitre, il le dit lui-même, le Fils de l'homme doit mourir, et où c'est? À Jérusalem. Et il fait le voyage de retour. Et ce qui est étonnant, quand il fait son voyage de retour, pour aller vers Jérusalem, il commence par les territoires non-juifs, donc chez les étrangers. Et ça, c'est impressionnant à partir du verset 7-24 jusqu'au 10e chapitre, verset 52. Il est en territoire étranger. Il est en Tyr, il est en Sidon. C'est là où il rencontre la femme syro-phénicienne. Ça, vous connaissez l'histoire. Et il revient seulement dans les territoires juifs pour aller directement à Jérusalem, parce qu'il doit se retrouver pour mourir. Et quand on voit l'évangile de Jean, il réserve la plus grande partie de son évangile à la passion, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça veut dire que pour Marc, l'évangile qui nous annonce, la bonne nouvelle qui nous annonce, la révélation qu'il nous donne a pour haut point, le point culminant, c'est que c'est Jésus-Christ qui est fils de Dieu, meurt pour nous. Et c'est là où se trouve le secret de cet évangile, et que c'est en acceptant cet évangile que nous entrons en pleine possession des bénéfices que Dieu accorde. Maintenant, la péricope que j'ai choisie appartient à ce moment-là où Jésus est en route. On dirait même pressé. Il est pressé, il doit être à Jérusalem parce qu'il doit se retrouver là pour la Pâque, parce qu'il doit y mourir. Et c'est dans ce contexte-là que se trouve la péricope que nous avons retenue. C'est l'histoire de la guérison de l'enfant possédé. Et je vous invite à lire avec moi le texte. Marc, au chapitre 9, à partir du 14e verset jusqu'au 29e. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule de gens et des scribes qui débattaient avec eux. Sitôt que la foule le vit, elle fut en émoi. On accourait pour le saluer. Il leur demanda : De quoi débattez-vous avec eux ? De la foule, quelqu'un lui répondit : Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Où qu'il le saisisse, il le jette à terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser cet esprit et ils n'en ont pas été capables. Il leur dit : Génération sans foi, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi. On le lui amena. Aussitôt que l'enfant le vit, l'esprit le secoua violemment. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père : Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? Depuis son enfance, répondit-il. Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, laisse-toi émouvoir et viens à notre secours. Jésus lui dit : Si tu veux, tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria : Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Jésus, voyant accourir la foule, rabroua l'esprit impur en lui disant : Esprit muet, et sourd. C'est moi qui te l'ordonne. Sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Il sortit en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que la multitude le disait mort. Mais Jésus, le saisissant par la main, le réveilla et il le releva. Quand ils furent rentrés à la maison, ses disciples, en privé, se mirent à lui demander : « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser nous-mêmes ?» Il leur dit : « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Prions Dieu. Éternel, nous sommes là, devant toi. Nous venons d'écouter la lecture de ta parole. Te prions, ô Seigneur, que tu nous parles. Que cette parole nous parle. Vivifie ta parole. T'es en nous toute autre voix que la tienne. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. La question que nous devons nous poser est celle de savoir quel enseignement principal Jésus confère dans cet épisode, dans cette péricope. Et pour moi, ça ne fait l'ombre d'aucun doute que le texte concerne la foi. Il y a la guérison, mais l'enseignement, c'est sur la foi. Parce que nous voyons à quatre reprises dans cette péricope ou dans cet épisode, Jésus, ou le texte parle de la foi. Premièrement, au verset 19, quand Jésus revient de la montagne, quand il voit la scène, qu'est-ce qu'il dit ? Génération sans foi. Jusqu'à quand ? Et j'aime bien l'ancienne version quand on disait encore jusqu'à quand ? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Donc, en d'autres termes, quand Jésus saisit la situation, tout ce qui s'est passé là-bas, et il trouve que c'est un problème de foi. Et c'est un problème parce qu'il s'agit d'un manque de foi ici. Deuxièmement, au verset 23, Jésus qui répond au père de l'enfant, qui supplie Jésus d'avoir pitié de lui. Laisse-toi émouvoir sur ma cause, sur ma situation. Et Jésus lui annonce la bonne nouvelle. Jésus lui dit : tout est possible à celui qui croit. En d'autres termes, tout est possible à celui qui a la foi. Mes amis, c'est la bonne nouvelle que Jésus nous annonce, qu'avec son arrivée, avec sa passion, avec sa mort, avec sa résurrection, tout devient possible à celui qui croit. C'est la bonne nouvelle. Il n'y a rien de meilleur que ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Le monsieur, nous allons revenir à lui, j'aime bien le monsieur, le père de l'enfant. Il dit, mais je crois, j'ai la foi. Et puis il ajoute, viens au secours, verset 24, viens au secours de mon manque de foi. Alors, ces quatre fois où on nous reprend le mot « foi », ont des enseignements à nous donner. Et pour moi, dans l'interprétation que je vous propose, je trouve au moins trois points saillants dans cet enseignement sur la foi. Le premier enseignement, c'est que nous devons saisir la foi à l'ombre de la gloire. La foi à l'ombre de la gloire. Retenez bien ça. La foi à l'ombre de la gloire. Pas à la lumière de la gloire, mais à l'ombre de la gloire. La deuxième leçon, c'est la foi à l'ombre de la foi. La foi à l'ombre de la foi. Et enfin, la foi à l'ombre du miracle. Qu'est-ce que je veux dire par ça? D'abord, la foi à l'ombre de la gloire. Si vous voulez, comme extrapolation de ce titre, c'est un conte de deux villes, un conte de deux cités. Ça, pour ceux qui aiment la littérature, ils vont se souvenir que je pense à Charles Dickens here, avec Tales of Two Cities, un conte de deux villes. C'est comme ça que le livre est traduit. Pour mieux saisir ces premiers points, il nous faut replacer la péricope dans son contexte narratif. Dans son contexte plus large, on retrouve Jésus dans la région de Césarée de Philippe. Donc, il vient de rentrer dans le territoire juif. Après son ministère dans la Galilée et après son séjour dans le territoire non juif. Ce qui est remarquable, c'est que jusque-là, Jésus qui a opéré beaucoup de miracles est consistant sur un point. Que chaque fois qu'il opérait un miracle, il disait aux bénéficiaires de ne dire à personne. En d'autres termes, il garde ce qu'on appelle le secret messianique. Il fait des choses qui prouvent qu'il est le Messie, qui prouvent qu'il est le Christ, qui prouvent qu'il est l'envoyé de Dieu. Mais au même moment, il dit, ne dites à personne, ne dites à personne. Mais ce qui est même plus remarquable, c'est que quand il quitte le nord, la Galilée, où il a exercé la plus grande partie de son ministère, et qu'il va vers Jérusalem, le rythme de la révélation s'accélère, comme si intentionnellement Jésus lui-même voudrait révéler le secret de qui il est. Mais au même moment, il continue à dire de ne dire à personne. On le voit déjà quand il entre à Césarée de Philippe, le premier moment qui nous est raconté de son temps là-bas, c'est la confession de Pierre. Jésus prend du temps pour évaluer son ministère. Que dit-on que je suis? Que dit-on que je suis? Nous voyons ça au chapitre 8, versets 27 à 30, pour la version de Marc. Ah, puis on dit, ah voilà, on dit que tu es l'un des prophètes, on dit que tu es ceci, on dit que tu es cela. Et puis Jésus leur retourne la question, et vous, que dites-vous que je suis? Et c'est là où Pierre fait la confession. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis Jésus ne dit pas, oh, alléluia, tu as bien trouvé, allez annoncer ça à d'autres. Non, 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 non. Il faut toujours garder ça secret. Et d'ailleurs, quand immédiatement il se met à leur parler de sa mort ou de sa passion, les disciples veulent en empêcher, y compris Pierre. Et Jésus n'hésite pas. Dans les deux cas, que ce soit en Matthieu ou en Marc, Jésus n'hésite pas à faire des reproches à Pierre. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais le moment le plus remarquable suit cet épisode. Et c'est la partie qui commence notre chapitre 9. C'est la transfiguration. Jésus prend avec lui trois disciples et il monte sur la montagne. Et là, sur la montagne, chapitre 9, notre chapitre, et là, sur la montagne, Jésus est transfiguré. C'est la gloire. Pierre Et là, nous voyons, nous savons que Moïse et Élie se joignent à lui. Pierre dit, nous allons, moi je vais m'engager, on va construire des tentes ici pour que cette expérience de gloire devienne une expérience permanente. Je veux que ça dure, Jésus, Seigneur, Maître, je veux que ça dure. Et vous savez la réponse de Jésus, c'est la fin de la gloire. Et ils ne virent que Jésus seul. Ils ne virent que Jésus seul. Et puis immédiatement, il leur dit de ne rien dire à personne. Et ils descendent de la montagne. Et c'est justement en descendant de la montagne qu'ils rencontrent les autres disciples en pleine discussion avec les scribes au milieu d'une grande foule. Après que ses disciples aient échoué dans leur mission. Mettez-vous à la place de Pierre. Il vient d'en haut où il a contemplé, Pierre et Jean, où il a contemplé la gloire de Dieu. Et ils arrivent au bas de la montagne. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le désastre. C'est le désastre. Cet épisode n'est pas sans rappeler l'expérience d'Exode au chapitre 32. Moïse est allé sur la montagne. Et au bas de la montagne, qu'est-ce que le peuple fait ? Le terme qui est employé là-bas, parce qu'ils ont fait l'idolâtrie, mais le terme qui est employé là-bas, c'est que le peuple s'est prostitué. Un terme très fort. Alors, ici, quand Jésus voit la scène, c'est un désastre pour les disciples qui se sont appuyés sur le mandat qu'ils ont reçu de Jésus. Au chapitre 6, il les avait déjà envoyés. Il leur a donné l'autorité. Ils exercent le ministère à la lumière de ce que Jésus leur avait recommandé. Et ça ne marche pas. Et quand Jésus arrive, il y a la foule qui s'empresse vers lui. Et puis, le père de l'enfant fait le compte de la situation. C'est un père très, très observateur, très éloquent, très articulé. Il donne la situation nette. Et la conclusion, et les disciples n'ont, tes disciples n'ont pas pu. Mais pour Jésus, c'est une question de foi. C'est une question de foi. En d'autres termes, Jésus est en train de dire, si dans des moments de gloire, il est plus facile de croire, nous devons nous préparer à exercer la foi à l'ombre de la gloire, quand la gloire disparaît. Et c'est le même enseignement que nous avons avec dans le livre d'Élie, non ? Quand Élie est fatigué, et ça c'est encore une fois de plus, là aussi c'est après Carmel, car sur le mont Carmel, Dieu s'est manifesté en faveur de Élie, il a envoyé le feu, et d'ailleurs le texte finit, souvent nous ne lisons pas cette dernière partie là, tout le monde, ça c'est la Bible qui dit, tout le monde disait que le Dieu de Élie est le vrai Dieu. Quel évangile ! Tout le monde s'est converti. Tout le monde s'accorde avec toi que ton Dieu est le vrai Dieu. Mais le jour suivant, menacé par Jézabel, même pas le roi, mais la femme du roi, menacé par Jézabel, la Bible nous dit, Élie s'enfuit pour sauver sa vie. Il prend les choses entre ses mains. Et il ne va pas loin dans le désert, découragé, aujourd'hui on dirait déprimé, il dit, j'en ai assez, je ne suis pas meilleur que les autres, prends ma vie. C'est une longue histoire, Dieu vient exercer un ministère auprès de lui, il le touche par l'ange, il le touche, il le nourrit, et avec la force qu'il a eue, il marche 40 jours, 40 nuits. Mais Élie va toujours dans le sens contraire de la volonté de Dieu. Ah, il nous arrive aussi, nous aussi, d'employer la force et l'énergie que Dieu nous donne pour aller dans une direction contraire à sa volonté. Et j'aime bien quand Dieu apparaît à Élie, qui se cache dans une grotte, dans le mont Horeb. Le mont Horeb, ça veut dire mont Sinaï. Donc, c'est le lieu de Dieu. Il veut se cacher loin de Dieu et il se cache là où Dieu est plus proche. Et Dieu apparaît à lui. Et la première question qu'il lui pose, « Que fais-tu ici, Élie ?» Que fais-tu ici, Élie ? En d'autres termes, il nous suggère ici, juste une suggestion, qu'il nous arrive aussi de nous retrouver là où Dieu ne nous reconnaît pas. Ce n'est pas là où tu devais être. Que fais-tu là ? Ce n'est pas ta place. Que fais-tu là ? Mais quand Dieu lui apparaît, c'est encore quoi ? Il y a des tremblements de terre, il y a des manifestations spectaculaires. Et la Bible reprend toujours, mais Dieu n'était pas dans le vent violent. Dieu n'était pas dans les tremblements de terre. Dieu n'était pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu voulait enseigner à Élie que le même Dieu qui apparaît dans le feu, le même Dieu qui apparaît dans les tremblements de terre, le même Dieu qui apparaît dans le vent violent, et aussi le Dieu du vent doux et léger. Et le Dieu du murmure. Nous devons apprendre à exercer la foi à l'ombre de la gloire. Le deuxième point, exercer la foi à l'ombre de la foi. Pour moi, quand je lis ces textes, il y a quelque chose qui me frappe. Hormis même les références au mot « foi », mais les récits m'intriguent parce qu'on y trouve effectivement beaucoup de foi. Mais que, et c'est la leçon, parfois la foi elle-même ne suffit pas. Et c'est là où on doit exercer la foi à l'ombre de la foi. Qu'est-ce que nous voyons ici? Commençons. D'abord, ici, je vais me limiter à deux aspects ici. Il y a d'abord les disciples, mais aussi le père de l'enfant, chez qui on trouve beaucoup de foi. Chez les disciples et le père de l'enfant. Commençons par les disciples. Comme nous le savons, les disciples qui étaient restés au bas de la montagne se sont retrouvés devant un fait accompli. Ils ne l'ont pas cherché. On leur a apporté un enfant en difficulté, un enfant possédé. Et fort de leur expérience, comme je l'ai dit, voir chapitre 6, versets 7 et 13, la commission de Jésus qui les envoie deux à deux avec autorité sur les démons, sur les esprits, en s'appuyant sur l'autorité qu'ils avaient reçue de Jésus, ils se sont mis à chasser l'esprit qui tourmentait l'enfant. Pour moi, le faire est un exercice de leur foi. C'était la foi. D'autant plus que cela était dangereux. Dangereux sur le plan spirituel, mais dangereux aussi sur le plan physique. Si ça ne marchait pas, ils couraient des risques, voire même risque de la mort. Et on le voit, la tension monter quand Jésus descend. La dispute là n'est pas anodine. La foule s'approche. La foule menace parce qu'ils ont échoué. Ils ont prétendu être des guérisseurs sans l'être. Mais ils ont pris des risques parce qu'ils ont cru qu'ils pouvaient le faire. Cependant, rien n'y fit. Et dans son constat, Jésus ne les épargne pas. pour lui, autant la foule que les disciples appartenaient à une génération sans foi. En d'autres termes, vous avez cru, mais il faut encore plus de foi. Est-ce que vous sentez ça, la foi au-delà de la foi ou la foi à l'homme de la foi? Il nous arrive de moments où notre foi traditionnelle, notre foi ordinaire, notre foi de routine ne suffit plus. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il faut quand cela ne suffit pas. En deuxième lieu, il y a un de mes caractères préférés dans cette histoire, le père de l'enfant. Il y a beaucoup de foi chez le père de cet enfant. Je le trouve remarquable. D'abord, comme il est dit à Jésus, la décision d'amener son enfant était signe de foi. J'ai amené mon enfant à toi. Il dit au verset, à partir du verset 17, Maître, je t'ai amené mon fils, j'ai amené à toi, Jésus, mon fils. C'est la foi. En plus de ça, ce monsieur est remarquable parce qu'il savait poser les diagnostics de façon impeccable. Sur le plan physique, quand il fait son diagnostic, même aujourd'hui, un médecin, le médecin n'est pas là, je ne le vois pas, mais même un médecin aurait dit, je sais de quoi tu parles, cet enfant souffre d'épilepsie. Diagnostic très correct. Voilà ce qui lui arrive. Mais il ne s'arrête pas là-bas. Il va même au niveau spirituel. Il dit, cette maladie est physique, mais derrière la maladie physique, il y a un esprit. Donc c'est aussi spirituel. Et il sait aussi la stratégie de l'ennemi. Quand il les saisit, il les jette parfois dans l'eau, parfois dans le feu. Pourquoi ? Pour le faire périr. Mais ce monsieur est formidable. Il comprend les enjeux. Aujourd'hui, ça pour moi, il est comme un héros parce qu'il comprend les choses, non pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Très souvent, même dans nos églises, nous sommes devenus des illettrés sur le plan spirituel. On se limite sur le plan matériel, sur le plan physique. Donc pour moi, c'est un modèle. Mais qui plus est, malgré l'échec des disciples de Jésus, en voyant Jésus, il croit encore. Il dit dans son langage, balbutiant, dans sa foi balbutiante, il dit, Maître, je sais que tes disciples ont échoué. Mais moi, je voudrais simplement te demander quelque chose. La première chose qu'il lui demande, c'est qu'il puisse avoir pitié sur lui. Aie compassion, aie pitié. Penche-toi sur ma cause. Et puis la deuxième chose, si tu veux, tu peux faire quelque chose. Ça, c'est la foi. Si il suffit que toi, tu le veuilles, tu peux faire quelque chose. Et quand Jésus lui annonce la bonne nouvelle, que tout est possible à celui qui croit. Il saute sur l'occasion, il saisit l'occasion, il dit, je crois, j'ai la foi. Mais c'est lui qui nous donne la leçon de la foi à l'ombre de la foi. Il dit, je crois, j'ai la foi. Mais au même moment, il ajoute, viens au secours de mon manque de foi. Mes amis, dès que la foi devient domestiquée, elle n'est plus une foi suffisante. Dès que la foi devient une propriété, elle n'est plus une foi suffisante. Dès que la foi est devenue une routine, elle n'est plus une foi suffisante. Cet monsieur nous apprend qu'il arrive le moment où c'est d'ailleurs, il nous faut à tout moment revenir à la réalité du fait que la foi c'est un don qui vient de Dieu et c'est un don qui se donne et c'est un don qui se renouvelle et c'est pourquoi il dit, moi je reviens à toi, réchauffe ma foi, renouvelle ma foi, viens au secours, je crois mais viens au secours de mon manque de foi. J'en veux encore et davantage. Mes amis, nous devons faire attention pour nous contenter du normal, de l'accessoire, de la routine et tout ça. Nous avons la foi et ça s'arrête là. Nous devons plutôt aspirer à aller vers Jésus encore et encore. Parce que, comme la Bible le dit, c'est lui qui est la source de tout, même de notre foi. Et Jean chapitre 15, verset 5, Jésus dit, « C'est moi qui suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. » Donc, il s'agit de cultiver cette intimité, cette relation intime avec la source. Et Hébreux, au fait, confirme la même leçon dans l'Épître aux Hébreux, verset 12, au chapitre 12, versets 1 et 2, après qu'il ait parlé de ces héros de la foi. Et puis il dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enlacent si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Et qu'est-ce qu'il dit ? Comment nous devons courir les yeux fixés sur Jésus, lui qui est le pionnier, ou dans la version ancienne, le chef et le consommateur, le pionnier de la foi et qu'il porte cette foi à l'accomplissement. C'est ça que ça veut dire être le chef et le consommateur. C'est, la foi, c'est de Jésus à Jésus. Dès que les yeux ne sont plus fixés sur Jésus, ça devient notre foi, nous sommes en problème. Nous sommes en problème. La foi à l'ombre de la foi. Et enfin, la foi à l'ombre du miracle. Et j'appelle ça le retour à l'envoyé. Enfin, cette leçon est très importante pour moi parce qu'elle vient de, si vous voulez, de la fin de la péricope, quand l'histoire est finie. Une fois rendu à la maison, ici, les disciples doivent avoir réfléchi sur ce qui était arrivé. L'épilogue le dit. Ils doivent avoir été impressionnés par comment Jésus s'est comporté. Et là aussi, il y a des leçons que nous devons apprendre, mais ça, c'est pour un autre enseignement sur l'exorcisme. Jésus, par exemple, identifie précisément l'esprit. Il identifie précisément l'esprit. De deux, il s'identifie lui-même. « C'est moi qui t'ordonne !» Et enfin, n'ont pas enfin. Jésus s'adresse ensuite à l'Esprit et aucune fois dans ces textes, il ne s'est adressé à l'enfant. C'est à l'Esprit qu'il parle. Et Jésus exerce son autorité. C'est l'autorité divine. Et il y a un geste supplémentaire. Il prend l'enfant, il le relève. Et les disciples étaient en train de penser à tout ça. Et en privé, ils posent la question à Jésus. Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser nous-mêmes? C'est une question, mais c'est aussi un reproche qu'ils font à Jésus. Tu nous as humiliés, parce que cela n'est pas arrivé. Tu nous as humiliés. Et la réponse de Jésus est fascinante. Elle étonne. Il dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Ah bon? Il y a différentes espèces, il y a différentes catégories, il y a différentes espèces d'esprits mauvais. Ah, ça, je laisse le soin aux experts d'élaborer, parce que Michel est là, il peut élaborer sur ce point. Mais est-il que, selon Jésus, il y a des espèces qui ne peuvent sortir que par la prière? Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, quand j'étais encore jeune, adolescent, j'étais à l'internat, et il n'y avait ni télévision, ni ordinateur. Et parmi mes passe-temps préférés, hormis la lecture et le sport, c'était la correspondance. On entretenait des correspondances avec des inconnus du monde entier. Et à l'internat, parce que c'était un internat dans un milieu très rural, le courrier arrivait deux fois par semaine. Et les deux jours étaient des jours spéciaux. On attendait avec trépidation que les lettres arrivent. Et on était fiers d'avoir reçu beaucoup de lettres. Et on collectionnait non pas seulement les timbres. Ah, ça c'est l'ancien temps pour les jeunes. Donc à l'époque, les lettres étaient envoyées par courrier et tout ça. Et on vous délivrait le courrier. On collectionnait non pas seulement les timbres, mais aussi les lettres elles-mêmes. Mais le même jour pouvait se transformer en un cauchemar. Si seulement et si on recevait une lettre estampillée, retour à l'envoyé. Parce qu'une fois découvert par les amis, on devenait objet de moquerie, retour à l'envoyé. C'était devenu même une expression de moquerie, retour à l'envoyé. Mais sur le plan spirituel, au fait, le retour à l'envoyé, c'est une discipline, un exercice qu'on doit embrasser, qu'on doit rechercher. Parce que il nous faut encore et encore revenir à celui qui nous envoie. En 2 Corinthiens au chapitre 3, versets 2 et 5, Paul décrit les croyants comme une lettre de Christ qui est connue par tous et qui est lue par tous. Mais avec cette image, le retour à l'envoyé est noble. La prière dont parle Jésus ici est une expression de ce retour à l'envoyé. Il arrive des moments que quand on est confronté à des situations difficiles, nous devons rentrer à celui qui nous a envoyés. C'est dans la prière. Dans la prière, une des choses que j'aime dans la prière, la prière, au fait, elle n'est pas une routine. C'est une reconnaissance qu'en nous, il n'y a rien. Viens à notre secours. Dans une des langues, en Angola, en Angola, ça c'est, pour nous, c'est juste à la frontière, c'est juste la rivière qui nous sépare. Dans une des langues de l'autre côté, en Angola, il y a une belle expression qui est là. Ukumbenu, ça veut dire tiens-nous. Tiens-nous, c'est l'expression la plus employée dans la prière. Tiens-nous. Donc on revient à la source, on revient à celui qui nous a envoyé. Dit, je suis allé loin, je n'ai plus de carburant, recharge-moi. Je n'ai plus de charge, recharge-moi. En moi, il n'y a rien, mais en toi, il y a plénitude. Je reviens à la plénitude, à la source, pour que tu me remplisses de nouveau. Ça, c'est la foi au-delà du miracle. Et en effet, dans l'Ancien Testament, tous les saints hommes de Dieu ou les saintes femmes de Dieu ont appris cette leçon. Moïse, au chapitre 33, verset 15, il dit, « Si toi-même tu ne marches pas avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » David, dans le psaume 23, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et plus loin, il dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Tu organises un festin. Tu deviens mon protocole. Tu organises un festin pour moi ou en face de mes adversaires. Et tu ne t'arrêtes pas là-bas. Tu oins d'huile ma tête. Donc il y a onction. Et quelle onction? Et ma coupe déborde. Et David termine par un souhait. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ailleurs, il est dit aussi, qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Oh, ce n'est pas pour rien que dans le psaume 63 aussi, c'est la même chose. Là, on nous dit même, les circonstances, on dit, quand David était dans le désert de Juda. Quand est-ce qu'il était là? C'est quand son propre fils, Absalom, s'est révolté contre lui. Il voulait le tuer pour un coup d'État. Il voulait prendre le pouvoir de son père. Et David fuit avec un petit groupe de militaires. Et il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger, on se moque d'eux. Et là, David dit, « Oh Dieu !» Psaume 23. « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche !» Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il cherche Dieu et il les contemple comme dans les sanctuaires. Je te cherche. Retour à l'envoyé. David, déprimé, découragé, il rentre à l'envoyé. Je te cherche. Et ce n'est pas pour rien que le Nouveau Testament, Jésus termine avec ce propos. Il dit, « Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. » Mes amis, voilà la bonne nouvelle que Marc veut nous communiquer. La bonne nouvelle concerne Jésus-Christ. Et il nous faut la foi pour nous approprier de cette bonne nouvelle. Amen. Et cette foi-là, selon Marc, c'est une foi qui dépasse le normal. C'est une foi qui va au-delà, à l'ombre de la gloire, quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort. À l'ombre de la foi, quand notre propre foi ne suffit plus. Et enfin, à l'ombre du miracle, quand on est forcé de rentrer vers l'envoyé, Dieu lui-même, qui est la source. Oh, que le Seigneur nous aide. Je ne connais pas l'expérience que vous êtes en train de vivre en ce moment, mais je prie que que dans un de ces exercices, vous puissiez trouver le réconfort. Soit la foi à l'ombre de la gloire, soit la foi à l'ombre de la foi, ou la foi à l'ombre du miracle. Et le Seigneur vous bénira. Amen.